c'est à la fois un non-événement et un événement. Un non-événement parce qu'il est normal qu'un parti politique débatte des grandes questions de société. Mais c'est aussi un événement que cette convention sur la laïcité, parce qu'elle crée une certaine effervescence dans le monde politique et parce qu'elle suscite certaines réserves dans le monde religieux. Alors, l'effervescence dans le monde politique, vous comprendrez que je ne la commande pas. En tant que juriste, je n'ai pas à apprécier si la Convention sur la laïcité est politiquement opportune. La question qui se pose est liée à la détermination de la ligne politique de la majorité dans la perspective des élections de l'année prochaine. Mais je préférerais qu'on parle de questions plus techniques. S'agissant, en revanche, des réserves que la conférence des responsables de culte en France a émise, j'aimerais faire un bref commentaire. Le 30 mars, je crois, cette conférence qui regroupe les 6 instances responsables des églises chrétiennes, de l'islam, du judaïsme et du bouddhisme, ont semblé s'inquiéter du devenir de la laïcité à la française. Alors je veux dire tout simplement que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt leur texte pour au moins 2 raisons. La première, c'est que ce texte cite les travaux de la commission que j'ai eu l'honneur de présider en 2005-2006. J'ai été évidemment sensible au coup de chapeau donné à ce travail. Mais l'intérêt du texte réside surtout dans l'hommage appuyé qui est rendu à la laïcité. C'est un hommage sans précédent dans un contexte pareil, et il suffirait à faire de ce texte un texte important. L'inquiétude des hautes personnalités religieuses, on peut la comprendre. Elles craignent l'instrumentalisation de cette question de la place de la religion dans la vie publique. Elles peuvent craindre qu'une religion soit stigmatisée, c'est un peu la crainte de l'exclusion. La religion en question serait l'islam. Elles peuvent craindre peut-être aussi l'incertitude. Je reprends un terme qui est souvent utilisé. Elles peuvent craindre qu'on ouvre une boîte de Pandore, c'est-à-dire un processus pouvant déboucher sur des conséquences nuisibles pour les religions. Elles peuvent craindre des retours en arrière. Mais je dirais que, personnellement, je ne partage pas cet émoi, parce que ces craintes avaient déjà été peu ou prou formulées en 2005, lorsque nous avons commencé à travailler à la Commission. Et finalement, j'ai le plaisir de dire qu'en 2006, elle s'était avérée sans fondement, de l'aveu même de ceux qui les avaient formulées. Et puis, cette inquiétude me semble malgré tout limitée, puisque l'une au moins des personnalités religieuses sera présente au débat de l'UMP. Il s'agit du grand rabbin, et le grand rabbin Bernheim indiquait dans un texte qu'il considérait que la laïcité était un art de vivre ensemble. C'est une définition sur laquelle on peut évidemment tomber d'accord.
Quel a été l'objectif de vos travaux sur la laïcité ?
Les travaux de la Commission se sont situés en 2005-2006. Ils ont d'ailleurs été prolongés par d'autres travaux, ceux d'un groupe réuni au ministère de l'Intérieur, et il est sorti de cela plusieurs circulaires importantes à partir de 2008. Donc ces travaux n'ont pas été inutiles du tout. Aujourd'hui encore, on vient de le constater, ils servent souvent de référence. Mais la matière dont nous parlons est une matière qui évolue tous les jours. Je suis tenté de dire que la laïcité n'est pas un dogme dont l'alpha et l'oméga seraient fixés de façon définitive. En droit français, la laïcité, c'est un principe constitutionnel depuis 1946, mais un principe qui n'est défini nulle part, dont le contenu est à rechercher dans des textes très nombreux, dans des textes quelquefois contradictoires ou diversement interprétés, et en tout cas dans des textes dont la portée varie dans le temps. C'est tout à fait important. Quand on parle de la laïcité, il faut bien voir qu'elle correspond à trois exigences. La neutralité de l'État et des services publics, qui a été consacrée par la loi de 1905, dans la mesure où celle-ci établit la loi établit la séparation des églises et de l'État. Les religions n'exercent aucun pouvoir politique, l'État n'exerce aucun pouvoir religieux. Le deuxième élément, c'est bien sûr la liberté de conscience et de religion, mais qui existe dans le droit français depuis la Révolution, depuis la Déclaration des droits de l'homme. Et le corollaire, c'est l'égal traitement de toutes les croyances et de tous les cultes. Mais ça, évidemment, ce n'est pas simple du fait de la montée de l'islam, ce n'est pas simple du fait du développement du culte évangélique et d'une façon générale de la transformation de du paysage religieux en France depuis quelques années. Voilà ce que je peux dire. Donc les travaux de la commission que j'ai eu l'honneur de présider peuvent toujours être consultés utilement, je me permets de le dire, mais cela n'interdit pas qu'on évoque aujourd'hui, à la lumière d'événements d'actualité ou autres, les mêmes questions.
Faut-il modifier la loi de 1905 ?
Il ne faut pas parler de ce texte, comme d'ailleurs d'aucun autre texte, comme d'une vache sacrée qui serait un monument intangible auquel on ne pourrait pas toucher sans ébranler la République. Non, la loi de 1905 a été modifiée à 13 reprises depuis un siècle. Certains de ces articles, il y en avait 44 au départ, n'ont jamais été appliqués, d'autres sont devenus sans objet. Ce qui est vrai et important, c'est que ces deux premiers articles fournissent la base du droit des cultes en France et qu'ils donnent son équilibre à ce droit. Ils disent, chacun peut les consulter, premièrement que la République assure la liberté de conscience et qu'elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public, c'est l'article premier, et article 2, que la République ne reconnaît de salarié ni ne subventionne aucun culte. Ces articles fournissent la base de notre droit des cultes, lui donnent son équilibre, ils font consensus et il n'est pas question aujourd'hui de les amender. Seulement, et c'est là où les choses deviennent compliquées, la loi de 1905, qui entre parenthèses ne parle d'ailleurs pas de laïcité, même si elle apporte beaucoup au contenu de la notion. La loi de 1905 n'est qu'un élément de la législation applicable aux religions. Il y en a beaucoup d'autres. Un recueil paru il y a quelques années comporte près de 2000 pages. Si vous voulez, la matière se caractérise par une véritable accumulation d'éléments épars, parfois contradictoires, faute de mise à jour systématique. Les textes sont quelquefois isolés, quelquefois ils figurent dans des codes, le code général des collectivités territoriales, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale, et évidemment ils doivent être lus à la lumière de la jurisprudence. Donc il n'est pas absurde, et là je réponds de manière précise à votre question, il n'est pas absurde de songer à les codifier ou à en entreprendre la codification progressive comme nous l'avions souhaité en 2006. D'autres pays l'ont fait. En Belgique, par exemple, il y a un code du droit des cultes, mais on pourrait donner beaucoup d'exemples. Il n'est pas absurde non plus de songer de temps à autre à des réformes. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a ce que nous disions tout à l'heure, il y a les besoins de la société, il y a l'évolution sociale qui, évidemment, ne s'arrête jamais. Et puis, parce qu'il est nécessaire, justement, de concilier toujours les exigences de la liberté religieuse, dont je vous disais il y a quelques minutes qu'elle figure au cœur de la notion de laïcité, et les exigences de l'ordre public. C'est là vraiment qu'il faut bien voir si le curseur est placé correctement entre la liberté religieuse et l'ordre public. Aujourd'hui, il ne fait pas de doute qu'il y a des réglages à faire, mais j'insiste aussi là-dessus pour bien répondre à la question des auditeurs. Tous ces réglages ne sont pas du domaine de la loi. Par exemple, la question de la mixité dans les piscines n'a pas à être examinée par le législateur, ni non plus celle de la nourriture confessionnelle dans les cantines. Ni non plus, et là, c'est d'un autre point de vue, la place je relève comme étant de plus en plus réduite des émissions religieuses non obligatoires dans les radios de service public. Ça, c'est aussi un problème. Mais il y a aussi, et je vais terminer ma réponse par là, parce que c'est vraiment important, des difficultés qui appellent des clarifications législatives. Je prends un exemple. Celui de l'affaire de la crèche Babylou, dans une petite commune d'Île-de-France qui s'appelle Chanteloup-les-Vignes. Cette affaire a illustré ces derniers mois les incertitudes juridiques concernant le port de signes religieux ostentatoires dans les entreprises délégataires de services publics. Il y a une certaine incertitude juridique qui nécessite probablement l'intervention du législateur. C'est par exemple ce qu'a pensé le député socialiste Manuel Valls, qui a déposé une proposition de loi. On peut le penser à quelque bord politique qu'on appartienne. Oui, parce que des réglages législatifs, je reprends l'image, peuvent toujours s'avérer nécessaires dans le respect des grands équilibres que je rappelais, ceux des articles 1 et 2 de la loi de 1905. Et pour tout vous dire, il ne me paraît pas en soi malsain d'en débattre. J'ajoute encore un mot. On l'a toujours fait. Il ne faut pas hésiter à légiférer. Vous vous souvenez certainement qu'en 2004, la grande question était celle du port des signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Je dois vous dire qu'à l'époque, j'étais un peu dubitatif sur la nécessité de légiférer. Je ne le suis plus aujourd'hui et je crois que plus personne ne l'est. La loi, qui est la loi du 15 mars 2004, a mis tout le monde d'accord parce qu'elle a prévenu dans l'immense majorité des cas les difficultés que l'on craignait. C'est un cas à méditer. On pourrait encore en voir un autre avec la loi du 11 octobre dernier interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Non, il faut chaque fois que nécessaire adapter les solutions juridiques pour que précisément puissent perdurer les grands principes.
Le fait qu'un seul parti politique, en l'occurrence l'UMP, organise ce débat sur la laïcité, est-ce un problème selon vous ?
Il n'est pas exact qu'un seul parti politique organise un débat de cette nature. Le Parti socialiste a organisé au mois de décembre dernier des rencontres de la laïcité, les défis du quotidien. Et puis même si c'était le cas, même s'il n'y avait qu'un seul parti politique qui organise un débat, je ne vois pas bien où serait le problème. Un parti politique a pour fonction de débattre. Le président du Sénat, M. Larcher, le rappelait d'ailleurs sur une radio jeudi dernier. Pourquoi faudrait-il laisser au Front National de Mme Le Pen le monopole du thème de la laïcité ? Thème qu'elle déforme d'ailleurs pour les besoins d'une propagande d'exclusion. Alors que la laïcité, dont j'ai plaisir à rappeler ici que l'idée première et le mot trouvent leur origine dans le christianisme, rendez à César, etc., alors que la laïcité est la forme française de la liberté religieuse. Voilà la vraie question. Pourquoi faudrait-il laisser à certains le monopole de cette question dans le combat pacifique, bien sûr, politique. Non, il ne le faut pas.